3h à Paris, 2h en temps universel.
Antoine Gallen.
À la une, à Tel Aviv, une explosion a touché plusieurs bus vides ce jeudi. On fait le point en début de journal. Au Sénégal, des fouilles archéologiques pour savoir combien de tirailleurs africains ont été tués par les forces coloniales françaises à Tiaroué, près de Dakar. Un drame survenu en 1944. Dans ce journal également à Paris, deuxième jour de témoignage des ex-otages au procès des geôliers présumés du groupe État islamique. Et puis Mercedes-Benz veut faire des économies. L'entreprise allemande a annoncé des possibles suppressions d'emplois. En Israël, des explosions ont touché plusieurs bus vides au sud de Tel Aviv ce jeudi soir. La police israélienne a évoqué un attentat terroriste présumé. Pas de victimes dans l'immédiat, Anne Verdaghe.
Les images diffusées dans les médias israéliens et filmées par des passants montrent un bus calciné et un autre en feu sur un parking. Les véhicules étaient garés au dépôt et ils étaient vides au moment des explosions. Un porte-parole de la police a déclaré que 3 engins avaient explosé et que 2 autres avaient été désamorcés. Un important dispositif policier a été déployé pour trouver des suspects. Les médias israéliens rapportent que les chauffeurs de bus de tout le pays ont été invités à s'arrêter et à inspecter leurs véhicules à la recherche d'éventuels engins explosifs. Selon le commandant de la police du centre d'Israël, les engins utilisés étaient similaires à ceux trouvés en Cisjordanie. Le ministre de la Défense israélien accuse, je cite, des organisations terroristes palestiniennes d'être à l'origine des explosions. Il a annoncé avoir ordonné à l'armée d'intensifier ses opérations en Cisjordanie. Un responsable du bureau du Premier ministre a déclaré que Benjamin Netanyahou considérait l'incident comme très grave et qu'il allait donner l'ordre d'agir de façon définitive contre, je cite, les éléments terroristes en Cisjordanie.
À Tel Aviv, toujours une minute de silence a eu lieu ce jeudi sur la place des otages. 4 corps ont été rendus par le Hamas. Mais Israël affirme que l'un des corps remis n'est pas celui de l'otage Shiri Bibas. De son côté, le parti islamiste s'est dit prêt à libérer en une seule fois tous les otages restants dans le cadre de la deuxième phase de la trêve. Volodymyr Zelensky plaide pour des relations solides entre l'Ukraine et les États-Unis. Le président ukrainien a rencontré l'émissaire américain Keith Kellogg, une rencontre extrêmement productive selon ses mots. La veille, Donald Trump avait qualifié Volodymyr Zelensky de dictateur sans élection. Son rapprochement entamé avec Vladimir Poutine fait craindre une rupture entre Washington et Kiev. De son côté, Emmanuel Macron rencontrera le président américain dans les prochains jours. Je lui dirai qu'être faible face à Poutine n'est pas dans son intérêt, les mots du président français. Surprise en Bolivie, Evo Morales se déclare candidat à la présidentielle du 17 août. Mais l'ancien président est pourtant inéligible car il a déjà exercé 2 mandats. Une candidature sous la bannière d'un autre parti que le mouvement vers le socialisme dont il a été le leader historique. Le premier chef d'État bolivien d'origine indigène est également accusé de traite de mineurs et visé par un mandat d'arrêt. Direction le Sénégal où des fouilles archéologiques vont avoir lieu pour savoir combien de tirailleurs africains ont été tués par les forces coloniales françaises à Tiaroué près de Dakar. C'était le 1er décembre 1944. Depuis 20 ans, les historiens réclament des recherches pour déterminer le nombre exact de victimes. Elles sont estimées à 350. On écoute Mamadou Koné, historien et membre du comité scientifique sur le massacre de Tiaroué.
On revient de très loin. Déjà, on a fait un grand pas que dans un conseil des ministres, que la décision soit prise de procéder par des fouilles archéologiques. Le reste maintenant, nos archéologues sont là, en train de se ronger les ongles. Ils attendent depuis très longtemps. Depuis les années 2005-2006, on a toujours dit que, à défaut d'archives, il faut procéder par des fouilles archéologiques. Parce que si les archives ont été dissimulées, depuis le massacre le 1er décembre 1944 jusqu'à aujourd'hui, c'est pas maintenant que gentiment on va nous les sortir pour dire oui, on s'était trompé, voilà, donc on vous remet ces archives. Même si moi je pense que ça va être difficile, quand on se rappelle que ces tirailleurs ont été pratiquement massacrés avec des armes lourdes, il ne faut pas s'attendre à voir des squelettes complets. Donc il faudra un temps assez long pour regrouper tout cela. Rappelez-vous un peu les fosses communes en Amérique latine. Donc c'est un travail de fourmi. Mais au moins, on pourra savoir le nombre de victimes.
En Côte d'Ivoire, la France a rétrocédé une importante base militaire ce jeudi, celle de Port-Boué près d'Abidjan. Elle l'occupait depuis 1978. Les ministres de la Défense des deux pays, Tene Birahima Ouattara et Sébastien Lecornu, étaient présents. Le ministre français a salué un moment historique. Deuxième jour de témoignage des ex-otages au procès des geôliers présumés du groupe État islamique. Cinq accusés, dont Mehdi Nemouche, le tueur du musée juif de Bruxelles, sont poursuivis pour leur implication dans la séquestration d'otages occidentaux en Syrie. Ce jeudi, la Cour a notamment entendu l'humanitaire italien Federico Motka, enlevé en mars 2013 et détenu pendant 14 mois avec son collègue britannique David Hain, qui sera lui assassiné. Récit de l'audience avec Laura Martel.
Ce n'est que quelques heures après leur arrivée en Syrie que les humanitaires Federico Motka et David Hain sont enlevés. D'une voix étranglée par l'émotion, l'Italien de 42 ans raconte les 4 mois les plus terribles de leur détention, passés aux mains de 3 tortionnaires anglophones qu'il surnomme les Beatles, dans 2 boxes, une cellule de 2 mètres sur 2. Battus, ébouillantés, électrocutés, affamés, ils sont persécutés sans répit par des geôliers obnubilés par Guantanamo. Ils nous ont donné des noms de chiens pour nous déshumaniser ou des numéros auxquels il fallait répondre, sinon les sévices redoublaient. C'est d'abord au cris qu'ils entendent dans la cellule voisine que les humanitaires se rendent compte de la présence des journalistes américains James Foley et britannique John Cantley. La première fois qu'on les a vus, c'est quand nos geôliers nous ont obligés à nous battre entre nous pour s'amuser. Pour les perdants, c'était le supplice de l'eau. Nous n'étions plus que l'ombre de nous-mêmes, complètement conditionnés, réduits à l'obéissance totale. En janvier 2014, plusieurs mois après avoir rejoint les autres otages, Federico Motka apprend de leurs geôliers que des négociations pour leur libération ont été lancées, mais que Washington comme Londres n'ont pas réagi. Pour les otages anglophones, la situation a changé, l'espoir s'est envolé, les violences ont redoublé. Federico Motka, libéré en mai, conclut en pleurs. Seuls David, James et John peuvent comprendre ce que j'ai vécu et je ne peux plus leur parler. J'ai l'énorme culpabilité d'être sorti de là et eux non.
Une ancienne professeure de Bétaram met de nouveau en cause le couple Bayrou. Avec Elisabeth Bayrou, on entendait les coups. Elle affirme à Mediapart que le Premier ministre François Bayrou et son épouse ont ignoré ses alertes sur les violences physiques et sexuelles infligées aux élèves de l'établissement des Pyrénées-Atlantiques. Sous pression, depuis 2 semaines, le Premier ministre a répété à plusieurs reprises n'avoir jamais été informé des faits. Le parquet de Pau a reçu plus d'une centaine de plaintes. À quelques jours des élections législatives cruciales en Allemagne, une mauvaise nouvelle de plus pour l'industrie allemande. La situation du secteur de l'automobile ne s'améliore pas. Mercedes-Benz a dévoilé ce jeudi une chute de ses bénéfices et a annoncé un plan d'économie. Au programme, réduction des coûts de production et des possibles suppressions d'emplois. Vincent Cotard.
L'année 2024 a été morose pour le constructeur allemand Mercedes-Benz. Une baisse d'un tiers de ses bénéfices nets et une perspective qui n'annonce rien de bon en 2025. Le constructeur a annoncé un plan d'économie de 5 milliards d'euros et une réduction de ses coûts de production de 10% à l'horizon 2027. Pour y parvenir, la marque allemande prévoit de délocaliser une partie de sa production en Hongrie, où les coûts sont largement inférieurs à ceux de l'Allemagne. Des suppressions de postes sont aussi à prévoir. Combien? On ne sait pas, mais la direction dit vouloir privilégier les non-remplacements et des départs à la retraite anticipée. Un plan semblable à celui de son concurrent Volkswagen, lui aussi dans le dur, est contraint de supprimer 35 000 postes et de délocaliser une partie de sa production. Des difficultés dues au recul du marché en Chine et à la complexité du virage électrique pour l'automobile allemand. La menace d'une augmentation des droits de douane de Donald Trump plane aussi sur le milieu, alors que l'Allemagne exporte 13% de sa production automobile vers les États-Unis.
Plainte classée sans suite contre Total Energy, le géant pétrolier est accusé d'homicide involontaire et d'atteinte à la biodiversité par 3 ONG. Une plainte co-signée par 8 personnes présentées comme des survivants et victimes du dérèglement climatique. Les rejets issus de la combustion du pétrole et du gaz sont les principaux contributeurs du réchauffement des températures. Coup dur pour Victor Wembanyama, la star française du basketball, absent au moins jusqu'à mi-avril en raison d'une thrombose. Il s'agit d'un caillot de sang dans une veine de son épaule droite. Il va manquer le reste de la saison régulière du NBA qui s'achève mi-avril. Sans lui, les San Antonio Spurs auront du mal à se qualifier pour les phases finales. Ils sont actuellement 12e de la Conférence Ouest. Et puis du football, les résultats de la phase retour de la Ligue Europa. L'AS Rome qualifié en 8e de finale, 3-2 face au FC Porto. Galatasaray éliminé après son match nul, 2-2 contre l'AZ Alkmaar, 3-6 avec le cumul des deux matchs. De son côté, Fenerbahçe est qualifié. Puis l'Ajax Amsterdam a eu chaud. Il se qualifie en prolongation contre l'Union Saint-Gilloise. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bientôt 3h10 à Paris.